Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, ma mission, vous la connaissez. J'ai une heure chaque jour pour vous montrer que oui, la France bouge et que c'est vous qui êtes le moteur de ce mouvement. Aujourd'hui, vous le savez, IKEA s'installe dans le cœur même de Paris. Alors, qui pour rivaliser avec le géant suédois, le fabricant français de meubles modernes et en kit existe? Et c'est eux qui sont à l'honneur aujourd'hui. Elle existe, elle, depuis 2008. Elle est devenue un géant français. Europe Amiante est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis, votre enfant n'aime peut-être pas l'école. Il est dyslexique ou précoce. La solution, c'est aujourd'hui, c'est sur Europe 1 et c'est pédagogie. C'est ça, la France qui bouge.
Europe 1.
39-21, évidemment, vous connaissez le numéro qu'il vous faut composer dès à présent pour venir nous dire où et comment vous achetez vos meubles, Anissa.
Effectivement, venez nous dire si vous allez, si vous habitez à Paris, découvrir le nouveau magasin IKEA aujourd'hui pour cette ouverture. Vous en parliez, Raphaël. Ou si vous achetez des meubles français, c'est peut-être votre choix. 39-21, hashtag Europe 1. Ça, c'est pour Twitter, Raphaël.
Effectivement, IKEA qui ouvre sa boutique aujourd'hui à Paris, c'est un gros changement pour l'enseigne parce que le magasin a tout simplement pour ambition de séduire les urbains, ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller se meubler à l'extérieur des grandes villes. Alors, on a eu envie tout simplement de savoir si des marques françaises étaient capables de rivaliser avec le géant. Pour les accueillir aujourd'hui à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayagela, bien sûr.
Salut Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach, c'est Mathieu Davy, fondateur de Call a Lawyer. Bonjour Mathieu.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Acheter une console pour son entrée, un nouveau canapé pour son salon, une étagère pour mettre ses livres, le dernier Bret Easton Ellis, on en parlait. C'est devenu très simple aujourd'hui. Avant, il fallait se déplacer dans un magasin, choisir le modèle. Aujourd'hui, tout passe ou presque par Internet. On choisit, on commande, on paye et c'est livré. Et ce tournant du e-commerce, certains Français l'ont vu arriver. Bonjour Philippe Moreau.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe Théma Home. Au départ, c'était la PME Moreau, SAS Moreau, c'est bien ça?
Oui, alors en fait, c'est une entreprise qui existe depuis 1961.
Créée par des menuisiers.
Oui, tout à fait, dans la région en Haute-Savoie.
Du côté
à
d'Annecy.
Thône, près d'Annecy, exactement. Et qui s'est beaucoup développé à partir de la fin des années 70 comme fournisseur de référence de ce qu'on appelait la vente par correspondance en meubles en kit, les grands catalogues, la Redoute, etc.
Voilà.
Et, et moi, j'ai racheté cette entreprise en 2004. À un moment, on se le rappelle, c'est difficile aujourd'hui, 15 ans après.
Oui, de rembobiner.
À l'époque, on se disait, Internet va révolutionner tout ça, ça va être formidable. La Redoute, la Maison de Valérie, Camif, Kel, tous nos clients vont se porter de mieux en mieux, et nous avec. Et en pratique...
Pas du tout, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu une crise, et ça, on l'a oublié.
Ça s'est passé très différemment, et on a vu arriver ce qu'on appelait les pure players, des barbares, de nouveaux venus avec des façons de faire complètement différentes, très agiles, qui ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le e-commerce. Nous sommes tous habitués, nous sommes immergés dedans. Mais la transition a été difficile pour nous, puisque nos principaux clients ont presque tous disparu.
Ouais, vous dites des barbares à l'époque, parce qu'aujourd'hui, avez saisi la balle au bond et vous faites du e-commerce aussi.
Bien sûr. Donc, après cette crise très forte 2008-2010, nous avons pris la décision de nous focaliser beaucoup sur le e-commerce, ce qui nous a imposé de devenir beaucoup plus agiles, notamment en termes de logistique, mais également de développer de nouveaux métiers dans l'entreprise, tels que le design, alors qu'auparavant, c'était des gens comme La Redoute qui le faisaient pour nous, nous demandaient de fabriquer les produits pour eux.
Oui, vous fabriquiez, on achetait du Moreau sans le savoir. Enfin, voilà, ça s'appelait Symbiosis à l'époque.
Ouais.
Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça. On ne trouve plus la marque Symbiosis.
Voilà, donc aujourd'hui, nous avons également mis en place une marque qui, dans tous les pays, est la même. Ça s'appelle Théma Home.
Qui est une marque portugaise
que nous avons rachetée il y a un peu plus d'un an, qui aujourd'hui est la marque de l'ensemble des produits du groupe. Qui se positionne comme du mobilier aux lignées purées, toujours avec des prix relativement abordables, de façon à permettre à tout un chacun, un peu partout dans le monde, d'exprimer son propre style.
Ça veut dire que sur med.com, par exemple, on vous trouve, c'est du Théma Home, on peut trouver chez Alinéa ou chez Habitat des meubles que vous fabriquez.
Chez Alinéa et chez Habitat, là, ce sont des produits à la marque Alinéa ou à la marque Habitat qui sont définis, qui sont designés en commun entre leurs équipes et les nôtres. Mais nous avons maintenant plus d'une dizaine de designers en interne qui nous permettent de développer tous ces produits et de défendre notre marque.
Et si vous nous suivez sur Europe1.fr, vous pouvez d'ailleurs découvrir en même temps les images de ce que vous dessinez justement pour ces marques, hein, notamment. Elisabeth, moi je voudrais qu'on regarde un petit peu le marché du meuble. Il se porte comment aujourd'hui ?
Mais ça va plutôt bien. Hein. L'année débute très bien pour le marché du meuble qui enregistre un deuxième mois consécutif en croissance avec une hausse de 2,2% de son activité juste pour le mois de février. C'est la Fédération du meuble qui l'annonce, hein, la FNAEM. Et c'est la première fois depuis le troisième trimestre 2017 que ce marché enregistre deux mois de suite une progression. Donc il se passe quelque chose.
Il y a d'autres gros acteurs français justement dans cette filière.
Vous vous souvenez de la Camif?
Oui. Hein,
au début, à l'origine, c'était une coopérative d'achat. Ça a chuté. Le catalogue papier qu'on envoyait à des dizaines de milliers d'adhérents aujourd'hui.
Ouais, comme pour la Redoute, hein, d'ailleurs.
Oui, ouais. Aujourd'hui, ça s'est digitalisé. Et c'est le groupe Mattelsom qui a racheté la marque en 2009. Vous avez aussi Maison du Monde, distributeur de meubles un peu partout en France, hein, qui va d'ailleurs lancer sa propre marque là, d'ici la fin de l'année. Ce groupe s'attend à une croissance de ses ventes autour de 10%. Ils viennent de s'associer à un hôtelier et ils viennent d'ouvrir leur premier hôtel à Nantes. Il y a un hôtel dans le centre historique de Nantes réalisé et imaginé par Maison du Monde. Maison du Monde qui réalise près de 20% de ses gains grâce aux ventes en ligne avec pour but d'atteindre la barre des 25% d'ici 2020.
Le coach Mathieu Davy.
Alors oui, bonjour, c'est une belle société française puisque je crois que vous avez un chiffre d'affaires en nette croissance et que justement vous pouvez vous justifier d'avoir développé des gammes, ce qui est un peu votre spécificité si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'ils vont des gammes de base à du mobilier dernier cri, c'est un peu une signature. Alors évidemment tout ça c'est fait avec du bois. Et la question qu'on se pose un peu, c'est ce bois, d'où il vient ? Est-ce que, par exemple, j'imagine, est-ce que vous avez signé le règlement bois de l'Union européenne de 2013 ? Alors ça remonte. Comment vous pouvez nous garantir finalement, parce que vous connaissez les abus de certains de vos très gros concurrents, qu'on n'est pas dans l'exploitation illégale
dans le
de
respect
forêt,
des règles.
Parce qu'évidemment, ça pose un vrai souci de replantation et d'utilisation du bois légal ou pas.
Et oui, la fameuse reforestation aussi.
Oui, alors c'est un vrai sujet, mais par rapport auquel l'ensemble des fabricants français se sentent plutôt bien, puisque notamment en Europe de l'Ouest, on a une forêt qui ne fait que croître, qui ne demande qu'à être exploitée, hein, et à être exploitée de façon professionnelle, en replantant, etc. Il y a de réels problèmes au niveau mondial qui touchent beaucoup plus des zones comme l'Amazonie ou la Malaisie ou l'Indonésie avec des espèces de bois très spécifiques. En pratique, pour les meubles en kit tels que ceux que nous fabriquons, ces meubles sont faits avec des panneaux de particules qui eux-mêmes proviennent d'usines françaises.
Donc des chutes de l'aggloméré.
Et ce sont des copeaux de bois, c'est-à-dire qu'on utilise principalement tout ce qu'on appelle le bois de trituration. C'est-à-dire quand on exploite la forêt, il y a les belles grumes qui servent à faire des planches ou des poutres.
Les restes,
et puis il y a tout le reste
sorte.
Du bois voilà, qui est broyé et qui permet de faire des panneaux industriels, qui est le matériau industriel par excellence. Et qui sont des produits en plus dans lesquels on est dans l'économie circulaire, qui intègre 35 à 40% de matière recyclée. Donc à la fois on stocke du carbone et on a un matériau qui est excellent d'un point de vue environnemental.
Vous fabriquez tout ou en grande partie en tout cas à Annecy dans votre usine ?
Nous fabriquons tous les meubles en kit à base de panneaux mélaminés en France et au Portugal. Tous les meubles qui sont plutôt faits en plaquage bois ou laqué. Donc justement, l'achat de cette deuxième usine nous a permis de monter en gamme et comme disait Mathieu, de pouvoir couvrir tout un éventail de produits correspondant aux différents besoins.
Et puis ça vous a aussi permis d'accélérer tout ce qui est internationalisation.
Exactement,
aussi.
Et d'être présent dans 45 pays aujourd'hui.
On reste ensemble et on continue à parler mobilier français aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et pourquoi ne pas réveiller les meubles paysans? C'est l'ambition de la chaise française qui leur redonne vie, version moderne. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec vos invités Raphaël Duchemin. Et aujourd'hui, on refait la déco. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs au printemps à la maison.
Oui.
Alors comment bien se meubler à la française, 100% made in France? Vous recevez les acteurs du secteur et vous pouvez vous aussi réagir. Vous avez envie de meubles français? Venez nous le dire, venez poser vos questions sur Twitter, hashtag Europe 1 et au 3921, c'est le standard.
Et je vous propose maintenant de revisiter le mobilier d'antan. Voilà une idée qu'on a tous eue, c'est vrai, en regardant, tiens, par exemple, un brin nostalgique, nos vieux bureaux d'écoliers. Bonjour Bartholomé Lenoir.
Et bonjour Raphaël, merci de nous recevoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes passé, j'ai envie de dire, de la nostalgie à l'action. C'était en 2017. Comment vous est venue l'idée du tabouret de ferme de traite qui est là, qui est juste à côté de nous et que vous allez terminer de monter dans quelques instants?
Alors l'idée est assez simple. Au début, on voulait faire du mobilier made in France.
Oui.
Sauf qu'on ne voulait pas faire un mobilier simplement made in France, on voulait aussi qu'il y ait une histoire française, donc une inspiration française de notre mobilier. Et on est parti comme ça avec mon associé Jean-Baptiste, qui est designer. On est parti dans la Creuse et on a rencontré un fermier qui nous a montré avec une affection profonde ces vieux tabourets de traite d'antan. Et on s'est dit, bah c'est ça qu'il faut faire, il faut réinventer ce mobilier-là pour pas qu'il soit perdu, parce qu'on n'en a plus l'usage aujourd'hui, et que ces lignes étaient très belles, simples. Et donc, on l'a réinventé, voilà.
Donc, le tabouret de traite, trois pieds. Là, il y en a deux pour l'instant, avec l'assise en plexi.
Exactement.
Vous terminez de le monter à coup de maillet. Alors, attention les oreilles, hein,
oui,
ça va faire du bruit. Donc, le maillet est en bois, les pieds sont en bois. Tous les produits sont made in France. Ça, c'était important. On va vous laisser. Attention, c'est parti. On vous écoute pour... Voilà, donc ça, on le fait comme ça, pareil, à la maison. On a l'assise qui est livrée et les trois pieds.
Exactement,
et c'est à nous de le monter.
C'est livré à plat. Et on a repris, comme on faisait le tabouret de traite des vaches, on a repris le montage des paysans. C'est pour ça qu'on l'a appelé le tabouret paysan, même si maintenant c'est un mobilier contemporain d'intérieur. Mais on a gardé ce système de montage avec un maillet à l'ancienne qui permet de ne pas avoir de colle. Donc votre meuble est construit sans colle. À l'ancienne et c'est très joli.
Et tout est fabriqué en France, tout vient de France. Le plexi, c'est parce qu'il y a une histoire aussi. C'est votre mère qui était
Ma mère travaille dans le plastique, dans l'industrie du plastique fabriqué en France, donc dans une petite ville qui s'appelle Béligné en Loire-Atlantique. Et c'est grâce à elle que je me suis rendu compte qu'il y avait un marché dans le mobilier qui était en grande difficulté. Et c'est de là qu'est venue l'idée de relancer un peu comme ça, humblement, le mobilier made in France.
Alors 2017, le tabouret de traite. Et puis, il y a eu des copains qui sont venus agrandir la bande. La table des copains, justement. Le banc des écoliers, j'en parlais tout à l'heure.
Voilà. On a gardé l'histoire, toujours la même histoire, une simplicité et des noms qui évoquent des meubles d'antan.
Et puis une nouveauté qui est là, juste à côté de moi. Si vous nous suivez sur europe1.fr, vous pouvez la voir. Elle est en collaboration, on le salue d'ailleurs, avec notre ami du slip français, Guillaume Gibault.
Exactement, voilà.
C'est une première, elle est avec nous.
On l'a
dévoilée aujourd'hui.
Donc c'est la première fois en exclusivité que vous pouvez voir cette chaise de plage qu'on appelait avant, anciennement, autrefois, le caldos de plage.
Ouais.
Et donc nous, on s'est dit, voilà, plus personne ne va avec des chaises de plage maintenant à la plage parce que ce n'est pas très beau, parce que ça ne dure pas dans le temps. Et donc nous, on s'est dit, on va refaire quelque chose de très beau. On va faire quelque chose de joyeux avec des couleurs sympas et on va faire quelque chose de durable. Donc on a choisi que des matériaux qui durent dans le temps et que vous pouvez garder pour vos petits-enfants plus tard.
Que dit notre coach de cette initiative de la chaise française?
Moi, je suis ravi de ce partenariat avec le slip français. Mais du coup, la question que je me pose, c'est faut-il mettre son slip français sur la chaise?
Ils ont des slips de bain.
Peut se mettre quand même nu sur cette chaise.
Alors, est-ce que dans votre jardin, si vous voulez, Mathieu.
Voilà, non mais
on préconise de se mettre nu à l'origine, mais exceptionnellement, vous pouvez vous mettre éventuellement en slip français ou même en maillot de bain français avec du slip français.
Alors, je vois la taille. Est-ce que c'est fait aussi pour les hommes? Parce que là, ça me
paraît. Oui,
c'est résistant.
Tout à fait.
Hein. Ah, oui. Je vais vous la faire tester tout à l'heure.
Et on élargit le design un peu. C'est maximum 100 kilos, je crois. Enfin. Donc je ne sais pas si on est dans les...
Oui.
Un petit régime, ça devrait aller. Elisabeth, qu'est-ce que vous avez trouvé des Français, je crois, qui se sont mis sur le marché des meubles sur mesure? Il y en a, parce que c'est pas du meuble sur mesure, mais c'est quand même du meuble d'inspiration.
Oui, alors nous, on essaye d'être un peu entre les deux. On travaille sur des pieds de différentes tailles. On peut personnaliser nos meubles avec des gravures. Mais pour des raisons économiques, parce qu'on ne voulait pas faire des mobiliers hyper chers, on a du coup industrialisé un peu la production, ce qui fait qu'on est sur des faibles quantités, mais des quantités quand même.
Alors, sur ce marché des meubles sur mesure, vous avez l'entreprise Drugeot Manufacture. Elle est née au cœur de l'Anjou. Elle existe depuis 1969 et elle mise donc sur une fabrication made in France. Mais aussi, elle réalise des produits sur mesure. Il personnalise le mobilier. Vous avez aussi la fabrique particulière. Elle a été fondée beaucoup plus récemment, en 2017, par le designer Alexandre Huin. Et ça, c'est une jeune marque qui propose des chaises très design et totalement personnalisables. Le mobilier personnalisable sur mesure, les gens demandent de plus en plus.
C'est quelque chose qui est en train de décoller. C'est quelque chose que vous ressentez, vous, justement. On vous demande de dessiner des choses particulières.
Nous, ce qu'on ressent, ce n'est pas tellement la personnalisation, mais c'est la sentimentalisation des mobiliers. Les gens ont envie d'avoir une relation avec leur mobilier.
Une histoire.
Une histoire. Et donc, ils ont envie de sortir un peu. Je ne vais pas critiquer de marque, je ne vais pas citer de marque, mais d'une uniformisation qui est IKEA, par exemple, Conforama, où les meubles se ressemblent beaucoup. Ils ont envie d'une histoire, donc des meubles plus intimes, plus spécifiques. Et donc, c'est nous, cette force-là qu'on a captée, à laquelle on a essayé de répondre.
Vous faites travailler des petites entreprises, des PME.
Des petites entreprises.
Dans le Cantal, ailleurs.
Alors, dans le Jura, principalement, sur tout ce qui est bois, beaucoup sur la région lyonnaise. Et nous, on est originaire de Nantes, donc on essaie de faire de plus en plus travailler des gens dans la Loire-Atlantique, les Pays de la Loire.
Combien de tabourets vendus déjà ?
Alors aujourd'hui, on a vendu à peu près 1000 meubles en tout. Donc, en tabouret, on doit être à 600.
Et vous êtes toujours deux ou vous êtes un peu plus nombreux ?
On est un peu plus nombreux maintenant. Donc, on a recruté... alors, c'est pas facile avec les charges sociales et tout ça, de réussir à recruter complètement...
Les cotisations sociales.
Mais, ouais, on a l'avocat qui est là pour contrôler tout ce qu'on
dit. Donc, on essaye d'être... On est quatre.
Vous êtes quatre. Qu'est-ce que vous dites, Philippe Moreau, de cette initiative, de ce besoin finalement d'avoir des meubles qui nous ressemblent et qui racontent un peu notre histoire française?
Moi, je trouve que c'est magnifique. Enfin, j'ai discuté un petit peu avec Bartholomé tout à l'heure. C'est son aventure extraordinaire, enthousiasmante. Je préside par ailleurs l'Ameublement français. Je suis très content de voir des jeunes pousses comme ça. Il est le bienvenu dans notre organisation. Il a d'ailleurs déjà commencé à toquer à la porte. Et j'espère qu'on pourra l'accueillir bientôt. Et des jeunes pousses comme Bartholomé sont très inspirants pour l'ensemble de nos marques. Parce que, comme vous l'avez dit, le marché doit se réinventer. Il y a une aspiration des consommateurs à mieux vivre dans leur intérieur, mais à le personnaliser, à y mettre leurs pattes, à le faire selon leur propre style. Et toutes ces inspirations vont dans le sens de les aider, de donner des idées, c'est très bien.
Eh bien justement, on n'est pas à court d'idées aujourd'hui, vous allez voir. On reste ensemble bien sûr sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Pourquoi pas des meubles en carton, mais pas n'importe lequel. C'est le créneau choisi par Carton Style. On va tout découvrir ensemble dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1. On refait toute la déco aujourd'hui. Il y a l'embarras du choix et en plus, on se meuble 100% français. Les acteurs du meuble français sont à vos côtés. Ils sont vos invités aujourd'hui, Raphaël Duchemin. Si vous avez des questions à leur poser, c'est maintenant que vous pouvez composer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Puis si vous avez envie de parler à nos invités, vous appelez directement le 3921. C'est le standard d'Europe 1, Raphaël.
Oui, maintenant, pour être avec nous tout à l'heure, évidemment, on vous attend. Et pourquoi pas, tiens, changer la matière des meubles. Ça vous dit, Anissa ?
Avec grand plaisir.
C'est ce que s'est dit aussi, je crois, Loïc Duhoux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Carton Style en 2008, c'est bien ça ?
Octobre 2008.
Comment vous est venue l'idée ? Je crois qu'au départ, vous travailliez dans une entreprise en intérim, une entreprise qui fabriquait du carton.
Oui, c'est exactement ça. Je suis rentré donc chez l'entreprise qui est mon fournisseur aujourd'hui en tant qu'intérimaire. Je ne connaissais pas du tout cette matière au départ.
Carton alvéolaire. Hein.
Alvéolaire, oui, c'est très important.
Spécifier exactement. Le carton alvéolaire. C'est pas le carton qu'on a à la maison quand on reçoit un colis.
Non, ça c'est du carton
cannelé. Il y a deux couches
cannelé.
En fait.
Non, c'est pas exactement ça. C'est en fait en trois parties. Donc, il y a le papier de couverture, les deux faces de couverture, donc les parties apparentes qu'on a ici. Et ensuite, il y a au centre des plaques ce qu'on appelle le réseau. En fait, c'est l'alvéole proprement dite, qui peut être de différents diamètres, différentes tailles. Et donc, au plus l'alvéole, si vous voulez, sera petite, et au plus la plaque sera résistante. Donc, c'est comme ça que j'ai connu cette matière. Que j'ai fabriquée en fait pendant une année. Et donc, c'était intéressant parce que je suis arrivé à l'ouverture de cette usine. Et donc, il y avait énormément de phases de test, en fait, tant au niveau des papiers que des cols, des diamètres, etc. Et j'ai été bluffé, en fait, j'ai pas d'autre mot, au fil du temps par,
la résistance
de ce matériau, tout en étant extrêmement léger. Donc c'est ça qui m'a interpellé.
Et alors qu'est-ce que vous faites? Vous récupérez les chutes et vous commencez à essayer de fabriquer des choses avec?
C'est ça. C'est ça. Au départ, je récupère quelques chutes. Donc j'avais une vingtaine d'années à l'époque et on va dire pas très fortuné comme beaucoup de jeunes. Alors j'ai commencé à me faire un comptoir en fait avec quelques chutes. Et puis, et donc étant jeune, il a beaucoup servi bien sûr. Et de ce fait, je voyais au fil du temps que ce meuble tenait complètement, tenait la route.
Il est toujours là d'ailleurs aujourd'hui.
Il est toujours là exactement. Je l'ai donné à un ami. Donc c'est un meuble qui a aujourd'hui une vingtaine d'années quoi. Et effectivement, au fil du temps, je me suis dit, mais pourquoi pas faire du mobilier avec cette matière puisque je voyais que c'était tout à fait crédible.
Oui, et vous le disiez tout à l'heure, ironie d'histoire, aujourd'hui l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé en tant qu'intérim est votre principal fournisseur.
Oui.
Résistance, on va tester parce que vous avez amené un meuble avec vous aujourd'hui sur Europe 1. Il est là avec nous. Vous le voyez peut-être si vous nous suivez sur Europe 1.fr. Anissa, vous êtes ma démonstratrice préférée, vous le savez.
Donc, faut que je monte dessus, c'est
ça. Monsieur nous dit, on peut monter dessus.
Allez-y,
on va le faire. Vous savez comment on aime bien tester, nous. Hein. Alors, allons-y. Est-ce que ça marche? Voilà. C'est effectivement très résistant et c'est en carton alvéolaire. Ça veut dire que c'est beaucoup plus léger aussi qu'un meuble. C'est plus léger qu'un meuble classique.
Assez, au minimum 6 fois plus léger qu'un meuble classique. C'est-à-dire là, le petit cube qu'on a sous les yeux, c'est un modèle donc, qu'on fabrique, qui s'appelle le cube Graf, qui se vend par paire. Et c'est un meuble, une fois que vous l'avez en main, si vous voulez, qui doit peser aux alentours d'un kilo trois. Et donc, Anissa est montée dessus, elle est très mince. Mais,
on a vu que
ça tenait sans problème. Et je peux moi-même monter dessus, et je pèse 90 kilos, si vous voulez. Donc, TTC, moi, par contre. Et donc, de ce fait, ça peut tenir au-delà de 100 kilos sans aucun souci.
Tout est fabriqué dans le Cantal ?
Absolument tout. La matière première, comme je vous le disais, parce que je n'ai pas beaucoup bougé en fait, de région, elle est fabriquée à une vingtaine de kilomètres de mon atelier. Et donc, tout est fait absolument sur place. La fabrication est faite entièrement, conception, fabrication, dans l'atelier carton-style aussi.
D'ailleurs, ce n'est pas écrit Made in France, c'est écrit Made in Auvergne.
Ah oui, c'est important.
Tout à fait.
Dites-moi, vous êtes combien pour fabriquer ces meubles et quels sont les modèles qui sont à notre disposition aujourd'hui, outre le comptoir et ce petit meuble que vous nous avez amené?
Alors, on est combien? C'est une petite entreprise artisanale encore. Ça peut osciller de 2 à 4 personnes à peu près, ponctuellement, suivant le flux de commandes, on va dire. Et qui peut être parfois surprenant en quantité, puisqu'on peut fabriquer, même avec un petit effectif, si vous voulez, on a la surface et le matériel nécessaire pour pouvoir fabriquer plusieurs centaines de meubles par mois, jusqu'à 700, on l'a fait en 6 semaines. Voilà. Et après, ça se vend donc sur le site cartonstyle.com et principalement, après, si vous voulez, le marché de mon mobilier, c'est le professionnel, l'agencement professionnel. Donc,
stand vous travaillez avec des magasins français, notamment, qui vous achètent. J'ai vu Jacadi, par exemple.
Oui, c'est exact. Donc, la commande que je viens de citer, 700 pièces, c'était pour eux, d'ailleurs. On avait équipé leur vitrine pour les points de vente français et étrangers, puisqu'ils en ont jusqu'en Chine. Et d'autres marques, Grain de Malice, on a travaillé aussi avec les surgelés Picard, vous voyez, dernièrement, qui ouvrent des secteurs secs, en fait, dans certains de leurs points de vente. Donc, c'est vraiment très, très étendu, beaucoup dans le vêtement, mais ça peut être dans divers secteurs aussi.
Qu'en pense notre coach?
Ce qui est bluffant quand vous le prenez, c'est sa légèreté. Ouais. On en a parlé, mais là, nous, on l'a entre les mains. Et le contraste entre sa robustesse et sa légèreté. Ouais. Donc, j'imagine, évidemment, pour des entrepôts, pour des magasins, puisque vous vendez qu'en B2B et pas pour les particuliers.
Essentiellement.
Mais
pour les particuliers aussi.
Vous vendez aussi pour les particuliers.
Sur le site, c'était un site marchand. Et donc, là, c'est plutôt une clientèle de particuliers. Parce que, il ne faut pas refuser le travail, quoi. Mais c'est vrai qu'essentiellement, ça s'est dirigé assez naturellement vers les professionnels. Et eux, ce qu'ils ont mis en évidence, si vous voulez, en premier, c'est justement le gain de poids. Puisqu'il y a une manipulation du coup qui est beaucoup plus simple, et si on suit donc la logique écologique, si vous voulez, c'est justement, il y a au niveau du transport beaucoup moins d'émissions de CO2, mmh. puisque quand on a fait cette commande de 700 pièces, il y avait quasiment 2 semi-remorques complets et sur un semi, ça représentait moins de 5 tonnes de marchandises, quoi, au lieu de peut-être 20 ou 25 habituellement. Donc, ça engendre émissions de CO2 réduites, consommation de carburant réduite aussi. Donc,
oui,
il y a toute une logique. C'est très bon pour la planète même.
On reste ensemble, on continue à parler meubles français aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
La parole est à vous, 39-21, on vous attend sur Twitter aussi. Hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Tous les jours, on parle français. Et aujourd'hui, Raphaël, on se meuble français avec les acteurs du secteur. Ils sont là autour de la table. Vous pouvez leur poser toutes vos questions. N'hésitez pas, 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Hashtag Europe 1 pour poster vos messages sur Twitter.
Philippe Moreau, président du groupe Temahome, est avec nous, ainsi que Bartholomé Lenoir, cofondateur et président de la Chaise Française, et Loïc Duhou, fondateur de Carton Style. Toujours à mes côtés, Elisabeth Assayag et Mathieu Davy, notre coach évidemment. Elisabeth, justement, moi je voudrais qu'on s'intéresse à quelque chose qui manifestement marche à l'étranger, qui est en train peut-être de prendre, qui sait, vous allez nous répondre. Ici en France, c'est le marché du meuble d'occasion.
Oui.
Ça vient petit
ça
à petit.
Ça s'impose petit à petit. Déjà, il y a énormément de sites internet de vente d'occasion. Bon, il y a les traditionnels qui ne sont pas dédiés qu'à la vente d'occasion, mais les Boncoins, les eBay vendent du meuble d'occasion. Et aujourd'hui, la brocante, ça va être davantage une petite promenade, moins un lieu de consommation si on recherche un produit spécifique. Vous avez la première brocante en ligne communautaire qui est Celency et qui vend brocantelab.com, où là vous pouvez trouver des tas de meubles d'occasion. Vous avez mymobilier.fr, chez Emmaüs aussi, label-emmaüs.co, là vous pouvez aussi trouver des meubles, ou luckyfine.fr. Donc ça s'installe petit à petit, le meuble d'occasion.
Et puis on répare aussi de plus en plus les meubles. Et je crois que vous avez trouvé une entreprise landaise.
Oui, une entreprise qui est située dans les Landes et qui s'appelle Happy Up, qui répare des meubles à partir de matériaux de récupération. Et en plus de ça, il y a une démarche, c'est une démarche qui a du sens, puisque cette entreprise Happy Up emploie des salariés qui sont en situation de réinsertion.
Est-ce que ce sont des mouvements de société qui vous parlent, Philippe Moreau, Loïc Duhou? Justement, le meuble de location, c'est quelque chose qui marche très bien. Moi, je suis allée aux États-Unis quand j'étais jeune, et c'était déjà le cas. On meublait des appartements entiers avec des meubles d'occasion.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réinventer tout l'écosystème autour de l'aménagement intérieur. Et en fait, les consommateurs attendent d'être inspirés par ce qu'ils voient, mais aussi de personnaliser. Et on est beaucoup dans ce qu'on appelle, excusez-moi pour le franglais, le mix and match. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va juxtaposer des tas de produits et on peut, par exemple, flasher sur la chaise qu'on a vue tout à l'heure ou sur des étagères en carton. Et puis vouloir à côté mettre un meuble de style ou
pourquoi pas un meuble
alvéolaire. Et pourquoi pas une partie que l'on va trouver dans une brocante ou d'occasion, d'autres sur lesquelles, parce qu'on a vraiment un coup de cœur, on va mettre un peu plus d'argent. Mais on a envie d'être maître de ça. Et je crois que les consommateurs ont envie, de façon personnalisée, de réaliser ces assortiments. Et nous autres, je crois que ce que nous avons à construire aujourd'hui, et nous le faisons petit à petit, c'est tout l'écosystème qui permet de faire ça, qui permet le recyclage, qui permet la réparation.
Et la location, par exemple, de meubles, c'est quelque chose...
Et la location également, parce que on est de plus en plus dans l'économie de l'usage plutôt que de la possession. Et on peut se dire, pendant 2 ans, je suis dans telle ville, peut-être que je vais m'équiper en location.
Bartholomé ?
Non, mais ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que les gens ont quand même une attention à l'écologie et au fait que les meubles soient durables. Et le marché de l'occasion permet aux gens qui ont un désir de changement de leur mobilier d'avoir des meubles moins chers, mais pour autant qui durent dans le temps. Grâce justement à ce marché de l'occasion. Donc, ça répond à plusieurs enjeux.
Même démarche pour vous, je suppose, Loïc Duhou. On est aussi dans cet esprit-là, avoir des meubles qui durent, mais qui soient bons pour la planète, qui puissent être aussi peut-être personnalisables.
Ils sont complètement personnalisables. D'ailleurs, je l'ai fait en bleu spécialement pour vous, celui-là.
Ah.
Mais il peut être aussi imprimé, donc avec logo, etc. Ça, c'est une partie qu'on sous-traite avec une entreprise cantalienne aussi. Et effectivement, mon but, si vous voulez, au départ, c'était de faire un mobilier écologique, léger, en carton alvéolaire, mais il fallait aussi que ce soit durable. Parce qu'un mobilier écologique, c'est très bien. En carton alvéolaire, c'est encore mieux. Mais s'il doit être recyclé après chaque salon, être jeté, etc., enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, j'ai travaillé là-dessus, je suis arrivé à un résultat satisfaisant.
Que dit notre coach ?
L'occasion, d'accord, mais à partir de quel meuble? C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a des meubles qui sont bien faits et avec des matériaux sérieux, ça le fait. Mais quand on pense à ce fameux gros concurrent dont on cite un peu le nom aujourd'hui, dont la durée de vie est quoi? 3, 4, 5 ans? Quand vous déménagez, que vous démontez un meuble de cette gamme-là, que vous le remontez, vous avez perdu 30% de son usage. Mmh. En deux déménagements, c'est mort. Donc l'occasion sur du mobilier très cheap, pardon de le dire, et sur des matériaux aussi faibles, aussi faiblards, c'est pas possible. Ça ne peut partir que
de
fabricants
de
sérieux, ce qui est le cas de nos invités aujourd'hui, mais avec du mobilier sérieux qui puisse durer et être pérenne.
Vous êtes d'accord les uns les autres, je suppose?
Oui, et moi je voudrais dire, IKEA donc, a fait la démarche de la proximité avec son magasin de plus proche des gens, donc les gens n'ont plus à faire 30 km pour aller jusqu'à leurs meubles. Mais ce qui serait bien justement dans la qualité, c'est que les meubles, eux, n'aient plus des milliers de kilomètres à faire pour arriver jusqu'aux gens. Et donc, je pense qu'il y a de l'effort dans la qualité à faire et ça soutiendra le marché de l'occasion.
Mais oui, les acheter finalement là où ils sont fabriqués, à côté de chez soi, c'est
exactement
un peu votre démarche à tous les trois, hein, n'est-ce pas Philippe Moreau?
Oui, et puis je crois qu'on a inventé tout un tas de services pour aider les gens à aménager avec leurs meubles, peut-être leur livrer jusqu'à l'intérieur de la maison, parce que c'est lourd un meuble, peut-être les aider à les monter, à les installer, les aider à récupérer l'ancien meuble, au passage, trouver les filières soit de recyclage, soit d'occasion.
Comme ça se fait pour l'électroménager.
De façon à entrer complètement dans une économie circulaire complète.
Merci à tous les trois d'être venus nous présenter
Merci
vos
beaucoup.
Créations. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler meubles à la française sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Une petite plage musicale et dans un instant, elle existe depuis 2008. Elle a été créée par une femme. Gros plan sur Europe Amiante, c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 de 13h à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, il est temps de découvrir l'entreprise qui va bien et aujourd'hui, on parle des amiantages.
Eh oui, cette entreprise, c'est Europe Amiante. Bonjour Karine Rouvier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous recevoir parce que vous faites, on peut le dire, un quasiment figure d'exception puisque vous êtes PDG de cette entreprise que vous avez créée en 2008 et vous êtes une des deux seules femmes, je crois, dans ce domaine. Pourquoi est-ce que vous vous êtes passionnée pour cette filière, la filière de l'amiante?
Je me suis passionnée pour une opportunité qui s'est présentée à moi et je pense que je dois être une chef d'entreprise née. Et du coup, c'est une opportunité qui s'est présentée en 2008 et j'ai trouvé que c'était intéressant et je me suis passionnée pour le milieu. Mais avant, je m'étais passionnée pour d'autres métiers que j'ai aussi.
Vous avez été dans la fleur, dans le fast-food, dans le BTP déjà, juste avant de reprendre Europe
Amiante. On en a une autre qui est sous le coude aussi, qui nous semble passionnante aussi. Donc voilà, on a une belle aventure qui est en train de s'écrire aussi.
Vous allez nous en parler, enfin j'espère. En 2007, quand vous vient l'idée, ça fait quoi? 10 ans, je crois, à peu près, que l'interdiction de l'usage de l'amiante est en vigueur en France.
Oui, c'est ça.
Et il n'y a personne ou pratiquement personne sur ce marché-là?
Alors, il y a quelques acteurs avec des certifications qui sont un peu compliquées à avoir, une nébuleuse pas très claire. Et en 2008, effectivement, au moment où moi je découvre ce métier, il y a la nébuleuse qui devient beaucoup plus stricte, avec des lois qui sont beaucoup plus accessibles. Et du coup, j'ai fait partie des gens qui ont déposé une certification en 2008. À l'époque, on était, je crois, de tête moins de 200 acteurs en France à faire du désamiantage. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on est un peu plus de 1200, en fait. Voilà.
Ouais, c'était un marché de niche à l'époque.
Complètement, oui. Ça l'est toujours. Hein. C'est un marché de niche sécuritaire, mais à l'époque, c'était totalement un marché de niche, oui.
Et c'est compliqué de s'imposer dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, avec effectivement toute cette certification à obtenir. C'est extrêmement dangereux de manipuler de l'amiante, donc il y a tout un tas de codes à respecter.
C'est dangereux, oui. C'est surtout dangereux pour les hommes de terrain qui sont des amianteurs. Donc c'est surtout dangereux pour eux. On a beaucoup de moyens de protection qui sont autour d'eux. Et puis c'est dangereux aussi pour l'environnement. Donc on a comme mission de protéger l'environnement. Donc effectivement, tout ça, ça met des très très grosses contraintes, surtout dans un milieu du BTP qui n'est pas habitué à avoir autant de contraintes, puisque les hommes de chantier sont des gars comme les autres. Et à la base, ils ne sont pas du tout habitués à remplir plein de papiers dans tous les sens, etc. Donc voilà, c'est ce mixte entre le métier pur de BTP et le métier de paperasse qui est un peu compliqué à gérer. Et puis avoir une certification et la garder, ça aussi, c'est un petit peu compliqué aussi.
Et voilà. Une femme dans ce milieu-là, c'est compliqué aussi.
Alors, j'ai jamais
vous avez
ça,
quelques anecdotes. Hein. Vous dites de temps en temps, on demande le patron, quand c'est moi au bout du fil, ça leur fait tout drôle.
Alors oui, voilà, ça m'est déjà arrivé. J'arrive dans des endroits où il y a déjà plein d'hommes assis autour de la table et puis on me demande si je peux ramener du café. Donc voilà, bon. Ça m'est déjà arrivé de rentrer et de dire, est-ce que quelqu'un veut du café? On me répond oui, je dis bah, moi aussi. Voilà, j'en veux bien aussi. Donc voilà, non, c'est vraiment très anecdotique parce que globalement, j'ai jamais pensé que c'était un défaut ou une problématique d'être une femme dans ce métier-là. Ça l'est tout autant que d'être, par exemple, un jeune qui démarre dans n'importe quel métier. Quand vous débarquez, que vous avez 19 ans, vous avez envie de faire vos preuves, ça marche pas plus que si vous êtes une femme dans un métier d'homme ou un homme dans un métier de femme. Voilà, je pense que quelle que soit la différence, c'est la mixité qui fait notre richesse, mais c'est pas ce qui m'empêche. Je me suis jamais dit que c'était un empêcheur d'avancer, en tout cas. Voilà.
Que dit notre coach, Mathieu ?
Eh bien, moi, je pense que c'est pas totalement un hasard qu'on ait une femme chef d'entreprise dans cette entreprise-là, puisque moi, j'ai découvert votre politique d'autogouvernance. C'est ça qui m'a passionné, au-delà d'être sur le désamiantage, évidemment. Mais c'est surtout comment vous avez créé ces bulles autogouvernance, c'est-à-dire que vous avez décidé que vos salariés auraient de l'autonomie, voire des groupes d'autonomie et de contrôle et de responsabilité, pour viser une autogestion totale. Alors, ça, j'aimerais bien que vous en disiez un mot, parce que ça existe déjà dans un certain nombre d'entreprises, mais ça démontre votre volonté d'une délégation et d'une autogestion que je trouve assez formidable et assez moderne.
Karine Rovier.
Alors, c'est un sujet auquel je ne m'attendais pas. Effectivement, on a mis en place l'autogouvernance dans l'entreprise. En fait, on fait partie des entreprises dites libérées. C'est une volonté que je porte avec beaucoup d'intensité au quotidien. Ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. On est sur les premiers mois, on est sur la première année de développement. Moi, je me suis dit qu'il fallait au moins 2 ans. Alors, il y avait plusieurs objectifs. Oui, rendre la liberté aux gens, leur liberté de choix, mais aussi avoir la possibilité de travailler avec des gens qui sont dans de bonnes dispositions pour mener leur vie et avoir envie de monter des projets. Ça faisait partie des choses qui m'intéressaient. Il faut savoir que l'amiante, moi j'ai l'obligation d'avoir une vision à 5 à 10 ans en tant que chef d'entreprise. L'amiante aura une fin, on l'estime, d'après des
dans une vingtaine d'années à peu
dans
près.
Une vingtaine d'années. Donc il est de mon devoir de préparer le virage, même s'il est dans 15 ans, il est dans mon devoir de le préparer. L'autogouvernance pour moi était une bonne solution pour permettre aux gens d'amener des projets dans d'autres activités. C'est ce qui se fait d'ailleurs, c'est pour ça que je disais qu'on est sur une autre activité. On a une activité de transport de déchets dangereux qui est en train de voir le jour grâce en fait à une bulle d'autogouvernance qui s'est dit bah nous aujourd'hui on fait de la livraison pour Europe Amiante, pourquoi est-ce qu'on la ferait pas sur un autre nom,
voilà. Les liaisons dangereuses, c'est ça?
Vous êtes au courant de plein de choses. Ah. Les liaisons dangereuses, oui, c'est ça. Alors, liaisons dangereuses, tout ça, on n'a pas mis le lait, ça, on l'a enlevé, donc ça s'appellera liaisons dangereuses. Et en fait, le dernier motif qui fait que je me suis mis en autogouvernance, c'est parce que comme je suis un peu feignante, je me suis dit que j'ai dit à tout le monde, en juin 2020, je pars faire le tour du monde en ne travaillant qu'une semaine par mois. Donc, je reviendrai une semaine par mois dans l'entreprise, mais comme tout le monde sera autogouverné, qu'ils se débrouilleront. Bah après tout, voilà, c'est un motif comme un autre. Bon, c'est pas vrai, je suis pas fainéant, je bosse beaucoup, mais c'est l'idée de se dire...
Oui, parce que pour
dire,
partir
voilà.
De zéro, avoir 132 salariés c'est aujourd'hui et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, effectivement, en principe, faut retrousser
oui,
les
oui,
manches.
Oui, c'est ça, oui, je travaille, oui, bien sûr.
C'est Europe Amiante, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Karine Rouvier d'être
Merci.
Venue nous en parler aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Il est 13h47.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Votre enfant a des difficultés à l'école parce qu'il est différent. Et si vous essayez pédagogie avec un J, c'est la solution. Et c'est sur Europe 1.
Et la France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h. Et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour. Et aujourd'hui, elle va soulager de nombreux parents.
Et oui, parce que chaque enfant peut avoir des besoins particuliers, notamment pour de jeunes enfants, profil dit atypique. Deux mamans ont lancé une plateforme, Elisabeth, ça s'appelle Pédagogie.
Oui, Pédago et la lettre J. Cette plateforme existe depuis 6 mois. Bien souvent, le système scolaire n'est pas adapté aux enfants qui ont des capacités qu'on dit un petit peu extraordinaires. Hein. Ça concerne entre 6 et 8% des enfants en France. Ce sont les enfants dits hyperactifs, précoces, dyslexiques ou encore les enfants en situation de handicap. Et face à cela, les professeurs et les parents ne disposent pas forcément des bons outils pour les accompagner. C'est ainsi que Pédagogie est née. Bonjour, Utissime.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la cofondatrice de Pédagogie. Alors, en quoi, c'est une plateforme en ligne, en quoi consiste cette plateforme ?
Alors, c'est une plateforme digitale qui s'adresse à la fois au corps enseignant et aux parents pour proposer des formations digitales, donc à distance, en ligne, et un bloc d'infos sur des sujets. Alors, c'est une plateforme collaborative de formation et d'information aux pédagogies innovantes et à l'accompagnement bienveillant des enfants. C'est-à-dire qu'on est parti, nous, en tant que maman, toutes les deux, moi et mon associé, amis d'enfance, on a toutes les deux des enfants. Moi, j'en ai 4. Le plus grand a 16 ans. Et le jour où il est rentré à l'école en petite section de maternelle, les problèmes ont commencé. C'est-à-dire qu'on a commencé à me dire, il bouge trop, il faut qu'il comprenne qu'il est à l'école, il faut qu'il reste assis, etc. Bon, tout ça pendant de nombreuses années, passé de psychologue en psychomotricienne, orthophoniste, etc., pour me dire, il n'a pas de problème cet enfant, il est heureux, etc. Mais il n'est pas adapté à l'école. Pour finalement lui faire faire des tests en début de sixième et avoir un diagnostic de trouble de l'attention avec hyperactivité, donc TDAH, avec un haut potentiel qu'on ne pouvait pas encore mesurer, mais ça veut dire que c'était un enfant qui était agité peut-être, mais qui avait un assez haut potentiel et qu'il fallait simplement le prendre en charge. Donc on a réfléchi et on s'est dit, il y a un gros problème, il y a un problème d'inadaptation. Et ce n'est pas que pour nos enfants, ce n'est pas que pour les enfants qui sont atypiques. En fait, la nouvelle génération a un fonctionnement cognitif, un fonctionnement du cerveau qui est différent. Et l'école n'est pas adaptée, l'école n'a pas évolué. Il y en aura de plus en plus, il y en a de plus en plus, parce que ce ne sont pas les mêmes enfants, ce n'est pas la même génération.
Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement aux parents d'abord ?
Aux parents d'abord, on propose des formations d'accompagnement. Par exemple, aujourd'hui, on a une session qui commence « Accompagner mon enfant précoce ». On va chercher des formateurs experts dans ce domaine-là. Par exemple, aujourd'hui, c'est Jean-François Laurent, qui est un formateur conférencier expert de la précocité. Et on fait des formations digitales, c'est-à-dire que les gens peuvent se former quand ils veulent, où ils veulent, à leur rythme. Et à un coût surtout très bas, parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit accessible à tous et partout.
Et c'est combien ?
La formation, elle coûte 79 euros pour 6 semaines de formation.
Et donc, on peut y aller 2 heures par jour quand on veut ?
On y va quand on veut. Voilà, c'est on s'inscrit, on y va quand on veut.
Ça signifie que si je ne sais pas ce qu'a mon enfant, je peux éventuellement trouver des conseils en venant sur la plateforme ?
Exactement. D'abord, sur la plateforme, il y a le bloc d'infos. Et puis, on peut aller voir le programme. On se reconnaît dans le descriptif de la formation. Il y en a plusieurs, on propose accompagner mon enfant précoce, accompagner mon enfant TDAH, etc. Donc il suffit d'essayer de se reconnaître, mais en général, les parents le savent dès le début. Ils commencent à se poser des questions, ils vont chercher, mais il leur manque de l'information et de l'information pour les accompagner. Et c'est la même chose pour le corps enseignant.
Le coach ?
Alors, je vois très bien pour les parents, donc moi en tant que père, par exemple, je pourrais très bien utiliser un tuto, j'imagine, en ligne. Mais vous parlez aussi des enseignants.
Oui.
Comment vous êtes reçu par le milieu enseignant qui a quand même évidemment tout un programme pédagogique et des règles et même une responsabilité vis-à-vis de l'enseignement. Comment vous imbriquez dans le système classique ? Est-ce que vous êtes accueilli à bras ouverts ou pas ? Est-ce que vous devez vous imposer ? Comment vous articulez vos méthodes dites modernes ou peut-être même innovantes avec un système plus traditionnel, mais qui est notre système ?
Oui, le système est en place. Alors, on ne dit pas qu'on va révolutionner complètement le système. Ce qu'on veut, c'est changer un petit peu les modes d'apprentissage. Apporter des méthodes innovantes dans les modes d'apprentissage. On ne va pas changer les programmes. Simplement, il peut y avoir des petites méthodes, des outils pour les enseignants qui ne sont pas si compliqués. Par exemple, une heure d'empathie par semaine en classe, c'est ce qu'utilise la Finlande. Ça crée des enfants heureux, épanouis. La méthode de maths de Singapour, qui a complètement repensé le système d'apprentissage des mathématiques, ils ont des résultats exceptionnels. Voilà, c'est des pédagogies qui sont innovantes.
Alors, et les qui profs sont plus inclusives.
Oui, exactement. Et les profs sont en demande parce que les profs, avant, avaient un enfant un peu différent par classe, mais maintenant, ils en ont des dizaines. Ils sont complètement dépassés et ils sont eux-mêmes en demande. Ils n'ont pas en formation initiale ce genre de formation. Ils ne les ont pas beaucoup non plus en formation continue. Donc, ils sont vraiment en demande. Voilà.
Ça s'appelle Pédagogie, avec la lettre J.
Exactement.
Évidemment. Plateforme que vous pouvez aller consulter, bien sûr.
Pédagogie.com.
Voilà. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Elisabeth et à Mathieu,
notre coach.
On se retrouve demain et nous parlerons, Anissa, des Français qui s'attaquent à l'obsolescence programmée.